Ce qui compte pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy. We'll be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Dis-moi quel film tu aimes et je te dirai qui tu es. Oui, le cinéma permet aussi de se dévoiler. Nous allons tenter l'expérience avec lui. On connaît ses mots, sa poésie, sa musique. Eh bien, ce matin, nous allons découvrir son cinéma. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Un physique d'acteur à la Rhett Butler, une voix singulière, une moustache en accent circonflexe encadrant un sourire désarmant. Il est l'une des cinq têtes pensantes d'un groupe très stylé, Feu Chatterton. Bonjour Arthur Teboul.
Bonjour.
Chanteur, auteur, trois albums déjà et dans ce dernier Palais d'Argile, 13 morceaux pour diagnostiquer une époque, la nôtre, la poésie a inspiré le nom du groupe, parcourt vos chansons et vous permet d'explorer notre langue autrement. Et les films dans tout ça, eh bien, si on connaît un peu vos textes et votre musique, on ne sera pas si étonné de découvrir dans votre top liste cinéma des univers décalés, poétiques, baroques, politiques, de Chris Marker à John Cassavetes. Enfin, pour se mettre en jambes avant la réouverture des salles, un petit entraînement chez soi avec notamment Richard Brooks, Marlène Dietrich ou John Huston, on va dire que c'est parti.
Nous étions frères un jour et les choses ont changé, c'est vrai. Il est parti. 18 mois à l'autre bout de la terre, éprouver son corps et sa tête dans les champs de bananes d'Océanie où l'on se lève à l'aube, éprouver le reste sur les plages asiatiques où l'on goûte au bonheur de synthèse et aux espaces infinis que les eaux couvrent la nuit. Où l'on se lève à l'aube. Et si nous avons pleuré ensemble ce jour de septembre où nous nous sommes quittés, c'est qu'on savait que l'infinie tendresse, la mémoire et le téléphone mobile sont peu de choses contre la distance, que tout allait changer. Il est parti, c'est qu'il se lève à l'aube.
Ce sont vos paroles, Arthur Teboul, un échantillon de poésie en musique, celle de Feu Chatterton. Derrière ce morceau, eh bien, des images, un clip en noir et blanc. Un visage d'enfant, un bras tatoué, un homme au chevet d'un petit garçon. Un clip, c'est un petit film et une chanson. Alors, c'est une histoire.
Ouais, toujours. Enfin, c'est vrai que notre manière d'écrire, et moi en particulier les textes, c'est toujours d'essayer de provoquer des images. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'étrange, finalement, à mettre de véritables images sur une chanson.
Ouais.
C'est presque une contradiction.
Oui.
Parce que le propre du texte, en tout cas moi ce qui m'anime dans le texte, c'est l'équivocité des mots. C'est-à-dire le fait qu'en écoutant, on puisse avoir simultanément en tête plusieurs images, parfois contraires. Alors peut-être pour nous la meilleure manière de mettre en image par un clip une chanson, c'est de laisser libre cours à l'interprétation du réalisateur. Ouais. C'est-à-dire de trancher, quoi.
Ouais,
de
c'est ça. La poésie, vous en écrivez depuis le lycée, peut-être même avant. La poésie, dites-vous, la joie de découvrir un témoignage qui résonne en nous. Un peu comme le cinéma pour vous ou pas?
Oui, c'est-à-dire que la poésie pour moi, c'est pas une forme d'art. Elle n'est pas dans la littérature, elle n'est pas dans le texte, elle est dans la vie, elle est dans tout. Et en particulier dans toutes les formes d'art. C'est-à-dire qu'en regardant un film, cette émotion d'avoir une humanité en partage, de reconnaître dans le témoignage d'un autre individu une expérience intime, et en plus avec l'émotion sublime quand en face on a un artiste génial, de dire waouh, il a réussi à mettre en image ou en mots une émotion, un sentiment que j'ai ressenti sans pouvoir l'appréhender, et cette reconnaissance, elle fait un frisson qui est la joie du spectateur.
Les films nous parlent, quoi.
Ouais, toujours. Ouais.
Votre dernier album s'interroge notamment sur ce monde pris dans les méandres de la toute-puissance des écrans. Les petits, les moyens, mais j'espère pas le grand écran. Il vous manque le grand écran, non?
Bien sûr. Il nous manque parce que ce grand écran, contrairement aux écrans de nos smartphones, s'inscrit dans une dynamique de la contemplation. Et c'est ce qu'on s'efforce, qu'on essaye de retrouver aussi à travers ce disque. Faire de la musique, pour nous, c'est déjà une discipline de la contemplation, de l'attention. Comment habiter l'instant et le présent? On vit dans un monde qui court, qui court à sa perte,
ouais,
et qui est très fluide, donc insaisissable, liquide. Comment on fait pour s'ancrer là maintenant? Et le grand écran, c'est toujours une expérience de l'instant.
Et collective.
Ouais, collective.
Comme les concerts.
Liturgique, exactement.
Oui.
Il y a quelque chose de sacré qui vient aussi du simple, de, comment dire, des rituels, des codes.
Oui.
Et se déplacer pour rejoindre une salle, retrouver des inconnus, ça participe du film.
Vous reconnaissez ça? Vous aviez 14 ans quand le film est sorti. C'est le premier sur votre liste. C'est Mulholland Drive de David Lynch. C'est l'histoire d'une... Alors, si on fait très, très, très court, c'est l'histoire d'une... C'est l'histoire d'une femme qui refait le film d'une rupture. Extrait.
Hello, it's me. We have a message. Diane? Hello? Diane? Camilla? Diane, the car's waiting. Are you okay? You coming? Uh-huh. Good. It means so much to me. Go on. The car's right outside your house. It's been waiting, okay? Okay. It's 6980 Mulholland Drive. Mulholland Drive.
Oui, Mulholland Drive est une énigme. La plus grande partie du film est une illusion imaginée par le subconscient du personnage, incarné par Naomi Watts. Comment vous, Arthur de Boulle, l'avez-vous perçu et même compris?
C'était un immense choc parce que à l'époque j'étais en troisième, j'avais 13 ans, et je m'étais débrouillé pour faire mon stage de troisième dans un cinéma, le jouant des pop-corn. Et quand il n'y avait pas de visiteurs, je me glissais dans la salle. Et par chance, il y avait à l'affiche Bully aussi à l'époque, et Mulholland Drive. Et donc j'ai vu le film de manière parfaitement fragmentaire, ce qui est pas du tout un problème.
Non,
peut-être que je l'ai vu dans le sens le plus clair.
Oui,
en y allant, je sais pas, oui, plusieurs fois dans la semaine, quoi. Et ça a été un immense choc pour moi parce que à cet âge-là, on découvre les œuvres d'art et de réaliser comment on pouvait changer la forme du récit, c'est-à-dire plonger quelqu'un dans une énigme. Pour peu que l'atmosphère soit suffisamment séduisante, pour qu'on ait envie de percer l'énigme sans comprendre. On vit dans un monde qui veut tout élucider.
Ouais.
Et accepter qu'on ne peut pas élucider, c'est beau. Mmh. Alors voilà, on caresse le sphinx, quoi.
David Lynch explique ça justement très bien, qu'il ne faut pas l'expliquer.
It's a strange thing.
C'est un phénomène étrange.
When we listen to music,
quand on écoute de la musique,
feel it.
On la ressent.
And there's some intellectual
la dimension intellectuelle
going on,
entre aussi but, en jeu,
so much
mais
of
la musique
feeling,
fait surtout appel aux sensations. C'est quelque chose de subjectif.
Like
on peut aimer, ne
like
pas
it.
Aimer, apprendre à aimer.
Film is so much like music.
Le cinéma,
so much
comme la musique,
feeling.
Fait surtout appel aux sensations. Et lorsque l'esprit s'en mêle, ça devient du domaine de l'intuition.
Arthur de Boulle, il y a aussi la musique de Badalamenti qui a dû vous impressionner.
Oui, j'ai constaté quand j'ai fait mon petit effort de lister des films qui m'avaient marqué, que c'était tous au fond des films musicaux.
Oui.
C'est-à-dire avec de la musique dans le film, mais
oui.
aussi un rythme musical,
oui.
un groove, et des réalisateurs très imprégnés de musique. On le voit bien là. Toute cette atmosphère de Lynch, elle est indissociable
ouais.
de l'atmosphère musicale du film qui nous plonge dans une forme d'onirisme qui caresse un peu l'inconscient, enfin les sensations dont parle David Lynch.
Vous voyez, par exemple, c'est un film impossible à voir en petit écran. Vous parlez des petits écrans dans vos morceaux, etc. C'est pas possible de voir Mulholland Drive sur un petit écran.
Ouais, j'ai pas fait l'expérience, c'est vrai, pas vraiment, parce que il faut cette concentration pour se plonger dans un monde. En musique aujourd'hui, par exemple. Il y a une pratique qui est, comme on écoute la musique sur des playlists,
ouais.
on le fait plus des albums. Enfin, beaucoup de gens font des collections de chansons. Nous, on tient encore à la longueur du récit. Pour plonger dans un univers, il faut entrer dans une langue. Comme quand on arrive au théâtre, on est dans notre quotidien, il y a quelques minutes d'adaptation pour entrer dans cette langue qui est propre au théâtre. Une fois qu'on entre dans cette langue, on peut s'y plonger avec délice. Pareil pour un film de David Lynch.
Ouais.
Il commence, quelque chose nous perturbe, fait bouger les lignes du réel. Et cette forme de subversion aussi, elle m'a beaucoup excité quand j'étais adolescent. Savoir qu'on peut détourner les mots, l'image, de l'usage qu'on en fait quotidiennement. C'est-à-dire les rendre à la fois plus gratuites, inutiles, et donc finalement plus essentielles.
Vous reconnaissez ça,
Tom Waits?
Oui, un travelling en noir et blanc sur les paroles et la musique de Tom Waits. Un cimetière, des maisons, le bayou humide. Ainsi démarre Down by Law de Jim Jarmusch. Jackie, John Lurie, proxénète à la petite semaine, Zach, Tom Waits, DJ Jockey, sont dans une prison en Louisiane, forcés de se supporter. Ils sont rejoints par un immigré italien, Roberto. C'est Roberto Benigni, rempli de l'entrain qui leur manque, qui leur impose de s'évader. Alors, c'est un film langoureux, dans une Louisiane qui est pas du tout folklorique et une Amérique qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est celle que filme Jarmusch.
Ouais, c'est en noir et blanc, c'est très stylisé. C'est une fable, une sorte de petit conte. Parce que j'ai découvert ça, quand j'avais 20 ans.
Ouais.
Et,
sur grand écran aussi?
Non, sur petit écran.
Ouais.
Mais, pour compenser, j'avais fait faire une immense affiche en toile de la couverture du film qui était en fait dans ma chambre, qui prenait toute ma chambre. Et donc j'avais une très très belle image, si vous la connaissez, c'est avec trois plans. Au premier plan, il y a Roberto Benigni qui enlace la femme dont il va tomber amoureux
italienne,
à la fin, après l'invasion.
Ouais.
Non, mais il va s'arrêter au bord de la route dans cette petite maison. C'est une histoire fabuleuse parce qu'elle est pleine à la fois d'absurdité, mais comme est la vie, elle est invraisemblable. Et quand on y croit, ça marche. Et Benigni, dans le film, c'est ça.
Oui.
Il croit qu'on peut s'échapper, il s'échappe. Il croit qu'on peut tomber amoureux alors qu'il n'y a aucun être humain sur le chemin. Il tombe amoureux, il croit qu'on peut construire ça. On le peut. Et cet optimisme, longtemps dans le film, on peut croire à une forme de naïveté et fatigant. Mais en fait, on réalise que l'optimisme, c'est pas un vœu pieux. C'est une manière d'imposer aussi quelque chose au réel, de le vivre. Quoi.
D'ailleurs, il parle pas bien anglais. À chaque fois, il ouvre son petit dictionnaire. On a choisi cet extrait parce que tout simplement, il crie, donc il cherche le sens du mot crier.
Hey, what is it?
Screaming.
Never help. Screaming.
One moment. I have a scream.
Screaming. Ecco qua. I scream. You scream. We all scream for ice cream. No, aspetta. I scream. You scream. We all scream for ice cream. You understand? I scream. You scream. We all scream for ice cream. I scream. You scream. We all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream.
Etc. En fait, ce sont trois ados rebelles, un peu, tous les... Oui, vous avez dû, Arthur Teboul, être quand même un peu sensible au fait que ça soit deux musiciens aussi. John Lurie et Tom Waits, bien sûr.
Ouais, bien sûr. J'ai découvert Tom Waits avant Down by Law, et de découvrir qu'il était aussi musicien. Enfin, pardon, aussi comédien.
Oui.
Ouais, c'est incroyable. Et John Lurie, qui est un saxophoniste super, qui a un groupe qui s'appelle The Lounge Lizards, qui est excellent. Mais on le voit, parce que même dans cette blague, là, c'est incantatoire. D'un coup, il y a du rythme. Ça, il y a ça chez Jim Jarmusch, de chercher ce groove, comme on dit, le flow, une cadence, quoi.
D'ailleurs, il raconte Jarmusch que souvent, à New York, il est à sa fenêtre, il regarde les gens marcher, il met de la musique et il le met au rythme de la démarche des gens. C'est un cinéaste musicien, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Et aussi new-yorkais. Enfin, là, non, dans ce film, pas en particulier, mais l'exemple, enfin, cette anecdote que je dois vous parler, elle montre bien qu'il essaye de faire battre le pouls de la ville, quoi. La musique au rythme de la ville.
Down by Law. Celui-là, ce film-là, il fait penser un peu à votre texte de À l'aube, ces chimères à fuir qu'on croit laisser aux portes des avions, long courrier, enfin la peur de s'engraisser ici et que le confort nous abêtisse, c'est ça. Hein. On va écouter un extrait de ce film, qui est un doc, qui s'appelle Sans soleil, de Chris Marker.
Il m'écrivait. je reviens d'Hokkaido, l'île du Nord. Les Japonais riches et pressés prennent l'avion, les autres prennent le ferry. L'attente, l'immobilité, le sommeil morcelé, tout ça curieusement me renvoie à une guerre passée ou future. Train de nuit, fin d'alerte, abri atomique. De petits fragments de guerre, enchâssés dans la vie courante.
Quel drôle de film ça, Arthur Teboul. C'est une réflexion en images de l'Islande à la Guinée-Bissau, en passant par le Japon, des lettres d'un caméraman freelance qui se demande quelle image garder. Chris Marker a passé sa vie à faire des voyages, ce sont une accumulation d'images sur des commentaires dits par Florence Delay. Comment vous l'avez découvert, cet incroyable film ?
Par mon meilleur ami cinéphile, ouais, qui a réalisé quelques-uns de nos clips, même s'il n'a pas fait son métier, ça. J'aimerais, parce qu'il est très talentueux. Et c'était, je crois, juste au dernier confinement, c'est possible, il y a un an, quoi.
Oui.
Ça a été vraiment plus qu'une claque en tant qu'artiste moi-même, comme un nouvel idéal, un nouveau phare dans la création, parce que ce qui est magnifique dans Sans Soleil, aussi d'un point de vue d'artiste, c'est de demander comment on fait une œuvre comme ça. C'est-à-dire une œuvre aussi sensible, subtile, qui est le sédiment de... On se demande combien d'années passées à recueillir des images. C'est presque un travail sur la mémoire même. J'ai l'impression que souvent... ça anime ça, Chris Marker, de savoir comment se construit la mémoire d'un homme, comment ses souvenirs s'articulent entre eux. Et en fait, souvent, les souvenirs s'articulent par le récit. On invente des liens entre les choses. Et ce qui me bouleverse aussi, c'est que Chris Marker est un immense cinéaste. Ça nous fait presque oublier à quel point il est un immense écrivain. Toute la narration, tout le texte qui est dit, en plus, il se cache de sa modestie d'auteur.
Oui, ouais.
C'est jamais Chris Marker qui écrit. Il dit, alors en fait, c'est un avatar qui envoie une lettre à une femme qui va finalement le dire.
Ouais.
Mais c'est lui qui écrit tout ça. Et à chaque fois, la résonance, l'écho, quoi, entre le texte et l'image fait germer quelque chose d'une poésie folle et aussi d'une précision, d'une délicatesse, d'une profondeur tout en même temps. Ouais, c'est vraiment du pur génie.
On a choisi cet extrait au Japon, où elle parle des... C'est comme des flippers en relief.
Oui, c'est ça. Oui.
Il m'écrivait. Jusqu'au fond des souks de composants électroniques, dont les extravagantes se font des bijoux, il y a dans la partition de Tokyo une portée particulière dont la rareté en Europe me condamne à un véritable exil sonore. C'est la musique des jeux vidéo. Ils sont incrustés dans les tables. On peut boire, on peut déjeuner en continuant de jouer. Ils ouvrent sur la rue. En les écoutant, on peut jouer de mémoire. J'ai vu naître tous ces jeux au Japon. Je les ai retrouvés ensuite dans le monde entier, à une variante près. Au départ, c'est un jeu connu, une espèce de batterie anti-écolo, où il s'agit d'assommer, dès qu'elle pointe la tête, des créatures dont je n'ai pas encore déterminé si ce sont des myocastors ou des bébés phoques. Maintenant, voici la variante japonaise. À la place des bestiaux, de vagues têtes humaines identifiées par une étiquette. Au sommet, le président-directeur général. Devant lui, le vice-président et les directeurs. Au premier rang, les chefs de section et le chef du personnel. Le type que j'ai filmé, et qui cassait la hiérarchie avec une énergie enviable, m'a confié que le jeu pour lui n'était pas du tout allégorique, qu'il pensait très précisément à ses supérieurs. Voilà sans doute pourquoi la marionnette du chef du personnel a été si souvent et si fortement matraquée qu'elle est hors de service. Et qu'il a fallu la remplacer à nouveau par un bébé phoque.
C'est drôle, non, aussi, hein, Sans Soleil.
Quelle verve, quelle intelligence, quelle sensibilité, quel humour, tout en même temps, c'est...
Il est disponible, ce film, bien sûr, on peut le voir.
Oui, chez Arte, Vidéo. Oui,
maintenant, on va rencontrer un musicien né, un virtuose inspiré, un petit blanc qui va nous donner du fil à retordre. Dixit, Didi Gilpsy et Charlie Parker. Mais aussi le portrait d'un homme complètement accro à la drogue et son impressionnante descente aux enfers. Let's Get Lost, de Bruce Weber, Chet Baker.
3, 4. Almost blue. I'm sorry.
No, 3. Chet,
all of you. No, no.
It's not.
It's so not like that. Ba, ba, almost. Ba, da, da, da. Those chords are in the first measure.
Okay. Arthur Teboul, je suppose que c'est un modèle absolu pour vous, Chet Baker.
Oui, on peut dire ça comme ça.
Ouais.
Mais j'ai connu Chet Baker grâce au film. C'est pour ça que je tenais à parler de ce film. Ouais. Oui, c'est. On l'entend là, en quelques notes, la pureté de cette voix, une sensibilité à fleur de peau,
ouais.
donc toujours juste. Et la justesse, elle est dans le sentiment, elle est pas dans la note. Elle est la note bleue dont on veut parler dans le jazz, mais aussi, et ce que j'ai découvert en même temps, du coup, j'étais fasciné par le personnage parce que on découvre dans ce film un ange déchu. Comme sont beaucoup d'artistes, c'est fascinant. Je me demande même pourquoi nous, les êtres humains, sommes toujours aussi fascinés par la déchéance des autres êtres humains. C'est-à-dire, on est vraiment, on aime voir déchoir des gloires. C'est bizarre, c'est un peu
bizarre.
Morbide. Et en même temps, c'est fascinant. Je pense aussi à Nina Simone. Pour arriver à ce degré de grâce, il y a du naturel, il y a le don. Mais je pense qu'il y a aussi cette intransigeance qui brûle tout, quoi. C'est-à-dire de vivre avec cette ligne sans concession qui vous laisse seul et qui rend difficile, voire inadapté, la vie sociale, quoi, tout simplement.
Bruce Weber l'a suivi pendant un an, l'année qui précédait sa mort. Et d'ailleurs, à un moment, dans le film, il lui récite comme ça, on lui demande rien, il récite ce poème, on va vous demander de le doubler.
The smoke builds a stairway for you to descend.
La fumée fait des marches que tu vas descendre.
You come to my arms, may this bliss never end.
Tu viens dans mes bras, un bonheur sans fin.
Wake or asleep, every memory I'll keep.
Veillez ou dormir, je garde chaque souvenir plongé dans un rêve de toi. Alors.
Then from the ceiling, soft music comes stealing. We glide in a lover's refrain.
Alors descend une douce musique qui glisse et reprend le refrain des amants. Tu m'as tant charmé que je vais avouer mon amour pour toi à nouveau.
Cigarette burns me, I wake with a start. My hand isn't hurt, but there's pain in my heart.
La cigarette brûle, je m'éveille en sursaut. Ma main n'a rien, mais j'ai le cœur gros. Notre amour reviendra comme autrefois, plongé dans un rêve de toi.
Chet Baker, donc, dans ce film Let's Get Lost, cette conclusion folle, c'était un rêve, ces choses-là, ça n'arrive pas rien qu'à très peu de gens, ça lui est arrivé à lui, ce génie pur, qui ne répétait jamais, paraît-il, c'est ce qui est dit dans le film, qui répétait jamais ses morceaux. C'est un talent inné, c'est hyper rare, ça.
Oui, et puis dans le film, on apprend aussi qu'il est autodidacte, c'est-à-dire qu'il ne lit pas la musique.
Oui.
On peut se permettre de répéter jamais quand on a répété beaucoup. Je suis sûr qu'il a beaucoup joué avant de ne plus avoir répété. Après, quand on est musicien de métier, au bout d'un moment, on joue tout le temps, donc on ne répète pas, on joue. Et ouais, cette voix incroyable. Let's get lost, c'est bon comme titre. Sachons-nous perdre.
Oui, ouais.
Ça résume bien.
Le programme.
Ouais. De Bruce Weber. Alors là, c'est vraiment le film qui entre en contraste avec toutes ces histoires noir et blanc, poétiques, etc. Et bon, on va écouter la bande-annonce, c'est Space Jam de Joe Pitka.
Le numéro 1 mondial du sport, Michael Jordan, fait équipe avec le numéro 1 mondial du dessin animé, Bugs Bunny. Et vous n'allez pas en croire vos yeux.
Papa, donnez-moi Monsieur Jordan. Est-ce que je pourrais avoir votre toto auto, votre signature, s'il vous plaît?
Bon, c'est quoi ce délire?
On a besoin de ton aide!
T'as entendu parler de l'équipe de rêve? Eh ben nous, on est l'équipe de crème!
Prêt?
Ouais.
Canard de lait.
Ouais.
Tu pivotes vers Mike.
Toi, t'es sous le panneau et tu les domines.
On joue en défense.
Ah, c'est vrai.
Non, je joue pas en défense.
Warner Bros. Présente Michael Jordan, Bugs Bunny.
Bunny recommandé.
Ensemble, ils pourraient bien sauver le monde. Space Jam. Vous n'avez encore jamais vu ça.
Bon, la plus grande star du basket américain, Michael Jordan, et la plus grande star des cartoons US, c'est Bugs Bunny. Bon, ce film, Arthur Teboul, c'est parce que vous aviez 10 ans à l'époque.
Ah ouais, ça m'a complètement exalté, ce cinéma, j'avais 10 ans. Ça m'a ému, en fait. Oui, quand j'ai cherché des films,
qui ont marqué votre vie.
Qui ont vraiment marqué ma vie. C'est remonté un peu naturellement. Je me suis dit, c'est la première fois qu'au cinéma, j'ai pleuré pour autre chose que de la tristesse.
Mais à quel moment vous avez pleuré?
Mais à la fin, parce qu'en fait, il y a cette très grande force, je trouve, dans le film, pour des gamins. Oui. Il me dit de croire en vos rêves et que tout peut y arriver. Je me souviens d'avoir eu ce sentiment de grande puissance, un truc très soft power américain, quoi, de dire l'ambition, en fait, j'ai découvert. J'avais déjà, mais l'idée que tout est possible. Je me souviens de m'être levé de mon fauteuil en une petite larme à l'œil, en mettant mon sac à dos en me disant tout est possible. Et ça m'a, bah là, en le disant, ça me rappelle aussi qu'à la télévision, après, à la même époque, il passait la série Fame, qui est un peu dans le même délire d'abnégation, avec l'effort, on y arrive, le travail. Et le générique de Fame, il disait Fame, non, je me souviens plus, mais il y avait une phrase qui m'a marqué depuis métamorphose et tu verras la vie en rose. Tout comme ça. Et là, j'avais, bon, ces émotions d'enfant, quoi. Bien on sûr. Sent que des grands sentiments futurs, on accède un peu à des grands sentiments futurs. Je pense, par exemple, à Chérie, j'ai rétréci les gosses aussi, où il y a une relation entre une adolescente et un plus jeune. Et moi, j'étais pas encore adolescent, mais pressentir ce que c'est que tomber amoureux, le désir charnel. Il y a des moments comme ça où.
Ouais.
Alors là, je vais faire un grand pont, mais Céline dit l'amour, c'est l'infini à la portée des caniches. Bah, quand on est enfant, on est un peu le caniche de nous-mêmes, plus tard, des plus grands sentiments. Bah, c'est à notre portée, certains grands sentiments.
C'est fort, hein, de citer Céline avec Space Jam. Ça, je veux dire, Arthur Teboul, c'est très fort. Le film suivant. Alors là, c'est un film absolument mythique. C'est Soy Kuba de Mikhaïl Kalatozov. En fait, c'est un film de commande censé glorifier la jeune révolution castriste en pleine guerre froide. Un scénario monolithique et plein de poncifs, mais qu'il a transformé avec son génial chef-op, Sergueï Urouzevski, eh bien en poème, en symphonie visuelle. On écoute un extrait de Soy Kuba.
What are you scared of? Sure, mister. Looks like the only thing you know how to say in English is sure, mister. Don't you know how to say no? Don't you know how to say no?
I know to say no, but I know say it, baby.
What else do you know in English?
Oh, money, mister.
Oh, money. You're a smart little girl.
I know.
Soy Kuba, est-ce que c'est la forme qui vous a impressionné, Arthur Teboul, ces travelling renversants? Il n'y avait pas de steadicam, il traversait des immeubles, il surplombait la Havane, il arrivait sur des visages en gros plan. Au-delà du message, qu'est-ce qui vous a retenu dans le film?
Ouais, le souffle de cette forme, c'est vraiment une prouesse technique incroyable. Il y a notamment, en fait, ce que j'ai aimé aussi, même si c'est un peu manichéen dans la forme, l'idée c'était de montrer comment l'américain, l'impérialisme américain pille le pays. Et ce qui est ironique, c'est qu'en fait, le film de commande, qui est quand même, quand on le voit aujourd'hui, vraiment un truc pour soutenir la guérilla et contre l'impérialisme américain, n'était pas suffisamment propagandaire pour le régime. Oui. Du coup, ils l'ont éteint. Mais ce qui est beau, c'est que à un moment, il y a une scène avec un paysan, une autre avec des étudiants. Voilà, quatre personnes qui sont les voix de Cuba.
Oui.
Et pareil, dans l'écriture, il y a quelque chose d'un peu marqueurien, même si c'est peut-être anachronique, j'ai trouvé. Et il y a une scène notamment dans un bar de nuit qui est incroyable. C'est une chorégraphie, c'est une partition. Et le chef opérateur fait des prouesses de mouvement, toujours au service du fond. Ça qui est très beau, c'est que peut-être d'instinct, mais c'est cette prouesse du plan, de l'image, du mouvement de caméra. C'est toujours au service du sens et de manière très subtile. Je sais pas, c'est une stylisée avec une forme bouleversante et des travelling incroyables.
Et encore un film en noir et blanc.
Ouais, en noir et blanc.
Incroyable. Vous êtes très noir et blanc.
Comment vous l'avez découvert, Soy Kuba?
C'est mon petit frère qui est cinéphile, très cinéphile. Il a fait Miss maintenant en deuxième année. Il m'a fait découvrir très récemment.
Ouais. Celui-là, il est en couleur. Il est très pop. On va dire que c'est une dystopie. Pop, c'est la 10e victime d'héliopatrie dans un futur proche, régulièrement organisé des chasses à l'homme pendant lesquelles les meurtres sont autorisés afin de canaliser l'agressivité. Les participants sont d'abord chasseurs, puis chassés jusqu'à atteindre le nombre de 10 participations. En fait, c'est donc une parabole sur la violence, la gangrène d'un monde hygiéniste vendu au capitalisme. Mais non, mais le discours est très intéressant. Ouais. En fait, ça serait un peu un meilleur des mondes habillé en courage, ce film.
Oui, et j'aime beaucoup quand les messages lourds sont portés par des formes légères, parce qu'en oui. fait, je trouve ça encore plus subversif, encore plus piquant. Mm. C'est vraiment narquois, c'est acide, mais comme ça, sans rien dire. Et ce film, oui, c'est ça, c'est, il est habillé en courage, il y a beaucoup de musique aussi, des couleurs très très pop.
Ouais. Très BD.
Très BD, donc, ouais. Ouais, très cartoonesque.
Ils n'ont le droit de lire que des BD, ils cachent les vieux.
Ouais, oui. Bien sûr.
Et il y a un couple incroyable. Donc,
c'est publicitaire.
C'est publicitaire. Mastroianni, ouais. Cheveux peroxydés, dandy dépressif face à Ursula Andress, qui n'a jamais été aussi belle. On parle de son deux pièces dans James Bond, mais là, deux pièces argentées de folie. C'est un dialogue entre les deux.
Scusami, Carolina, ma tanto per essere chiari. Vedi, in Italia non si sposa quasi nessuno, non conviene. Non c'è ancora il divorzio. Si convive. Siamo molto religiosi.
Voglio un figlio da te. Anzi, ne voglio due o tre.
Sì, cara, io te ne posso dare 3, 8, 9, 10, quanti ne vuoi. Ma senza matrimonio. Eh?
Su, avanti, non scherzare. È la prima volta che lo chiede a qualcuno.
Mastroianni, incroyable dans le film.
Ouais, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce film. Ouais. C'est vraiment, il incarne, à la fois cette immense élégance et cette passivité active, c'est très bizarre. Ouais. Une manière de traverser le monde en étant à la fois attentif et alerte et en même temps détaché. Il n'y a que lui qui sait faire ça. Quoi.
Ça, c'était le froid, et on va finir par le chaud, en fait. Non, mais je m'en rends compte, là, en parlant.
Le film est, oui. est édité par Carlotta, il faut le dire, c'est un film assez rare.
La dixième victime.
Donc, la dixième victime, Carlotta en Blu-ray. Ouais.
Donc ça, c'était plutôt froid, Sexulite, chaud, on va finir par là, c'est Love Streams. Love Streams de John Cassavetes. In love, I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure.
I'm almost not crazy now.
I just don't care.
Well, love is dead. Love is a fantasy little girls have.
Love is a stream. It's continuous. It doesn't stop.
I don't want you to go. I love you. You're the only one I love.
Oh, shh.
Love Streams, des torrents d'amour. John Cassavetes, tourné 2 ans avant votre naissance, Arthur Teboul. C'est l'avant-dernier film de Cassavetes qui se savait déjà malade. Avec des thèmes chers, le couple, la famille, le spectacle. Bref, un concentré d'émotions. D'émotions humaines.
Je crois que c'est vraiment le réalisateur qui me touche le plus, que j'aime le plus. Dans sa générosité. C'est-à-dire, il sait embrasser les failles, les faiblesses de l'autre. Pensez à un auteur que j'aime beaucoup aussi, il s'appelle John Fante,
ouais.
Où on peut se permettre d'être très cruel si on est aussi très tendre. et Cassavetes, c'est comme ça, il danse sur un pied et sur l'autre, envers lui-même, très cruel envers lui-même, très généreux envers les autres. Et il a cette manière si belle, qui montre vraiment une beauté d'âme, d'être capable de mettre sur la table à la fois toutes les faiblesses et les excès et les déroutes. Des êtres humains, mais de les chérir aussi pour ça, de les aimer pour ça, de les rendre beaux comme ça. Il faut beaucoup d'amour pour l'autre, être capable de sublimer vraiment ça, c'est plus grande bassesse.
Il joue pas l'objet de l'amour étant ici Gina Rowlands.
Bien sûr.
Il faut le dire.
Ouais, ouais, bien sûr,
magnifique Jerry qui est censé être sa sœur.
Oui,
avec
ça,
une ambiguïté jusqu'au bout du film qui est sidérante.
Il y a une scène merveilleuse, à la fin ils dansent tous les deux.
Oui.
Ouais. Sublime, et là, à ce moment-là, on dit, ils sont mariés femmes. Dans le film,
ouais.
Son frère et sœur, mais, c'est, ouais, c'est un amour sublime. C'est deux individus, pas personnages, individus,
ouais.
Qui, à chaque fois qu'ils sont ensemble au cinéma, transpirent cet amour par-delà même les rôles, les personnages. C'est
devant, derrière sublime. La caméra, tout se mélange.
Ouais. Ouais.
Merci, Arthur de Boulevard. Restez bien sûr avec nous. Merci pour cette liste étonnante. On se retrouve pour évoquer d'autres films après ce groupe français, Un garçon dans le vent.
C'est pas grave.
compagnon des mauvais jours. Je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais. La recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais. J'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche. C'est une musique qui plaît. J'aurais dû nous écouter. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon, à moi quelquefois, plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, compagnons des mauvais jours. Que vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais. La recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais.
Je le disais en attendant la réouverture des salles, et ben on va essayer de s'instruire au cinéma, de le lire par exemple. Hein, à commencer, Laurent, par ce bouquin, Marlène Dietrich, celle qui avait la voix de Camille Labèche et ses Capricci. Une voix pas aussi belle que celle de sa rivale Greta Garbo, mais un itinéraire fascinant quand même.
Fascinant itinéraire, ouais, que Camille Labbé retrace dans cette jolie petite collection de monographies d'actrices, d'acteurs que publie donc Capricci. Et c'était un tempérament quand même, hein, la Marlène. Parce que, par exemple, au printemps 41, quand on lui apprend que Gabin est en train de fuir la France pour arriver aux États-Unis, elle télégramme à son mari, à elle, hein, « J'apprends que Gabin vient ici. Renseigne-toi. Il faut que je l'aie en premier. » Citation. C'est ça, Marlène Dietrich aussi, avec cette voix évidemment incroyable à laquelle fait référence le titre du bouquin, hein, celle qui avait la voix. Bah, Hemingway, à propos de cette voix, disait lui, s'il n'y avait rien d'autre que sa voix, elle pourrait s'en servir pour briser votre cœur. Voilà ce que c'est que la voix de Marlène par Hemingway. C'est pas mal. Donc le bouquin s'appelle, et il revient comme ça sur toute sa carrière, avec beaucoup d'anecdotes, mais c'est très très agréable à lire, très informé, et évidemment cette fin crépusculaire à Paris,
ouais,
avec Louis Bozon comme, ouais, comme valet de chambre presque. Enfin voilà, ça c'est très étonnant, vivant recluse, et alité en permanence.
Corrigeant les jambes des actrices qu'elle voit dans les magazines.
Tout enfin, à fait, et disant mais qu'est-ce que fait Madonna avec sa petite culotte, ouais, face au président de la République, Jacques Chirac. Ça avait déchaîné ses foudres à l'époque, enfin étonnant. Marlène Dietrich, celle qui avait la voix chez Capricci.
Un autre livre, c'est Les prises d'Oyon d'Anthony Collot aux éditions Marest, un titre en référence aux multiples prises du cinéaste français, Laurent Jacques Doyon.
Il paraît, oui. Effectivement, 35 films au compteur, hein, Jacques Doyon, quand même. C'est bien d'avoir des nouvelles de ce qu'il faut dire, de cette espèce d'héritier de Jean Eustache, hein, dont, pour lequel Bergala, Alain Bergala, parle dans ses films de morale de l'inconfort. Je trouve que c'est une très belle définition. Et quand il avait vu son premier vrai long métrage à lui, Les Doigts dans la tête, François Truffaut avait dit, ben, ces films, c'est simple comme bonjour. C'est pas mal, je trouve, comme définition, d'arriver à des films simples comme bonjour. On est très envieux de ça, parfois. Les enfants, les jeux avec les mots, beaucoup les jeux avec les mots, les couples, évidemment, tout ça, ça fait partie, effectivement, de l'univers de Doyon, que l'auteur, Anthony Collot, décortique avec beaucoup de subjectivité, une très jolie langue, lui aussi. C'est pas du tout une monographie sur Jacques Doyon, et ça fait référence, effectivement, à cette façon qu'a Doyon de surmultiplier les prises avec des acteurs qui doivent arriver sur le plateau en sachant le texte au cordeau.
Et puis c'est des textes énormes.
Et c'est pas n'importe quel texte, absolument. Voilà.
Deux DVD, un film génial de John Huston qui s'appelle Le Malin, 1979, chez Carlotta.
Un jeune homme invente un nouveau culte, l'église sans Christ, avec un acteur étonnant, Brad Dourif.
Mais oui, absolument. C'est la première fois que le film est en Blu-ray. Écoutez, c'est très étonnant parce que John Huston a 70 ans quand il tourne ce film, donc c'est pas un perdreau de l'année. Il a beaucoup tourné déjà. Il pourrait faire un film hollywoodien. Or, c'est un film sans argent, hors système. On a l'impression d'un premier film un peu fabriqué comme ça, mais d'une maîtrise du coup sidérante et incroyable parce que c'est Huston et parce qu'il a 70 ans et parce qu'il en est là de son au sommet de son art, avec ce portrait impitoyable de l'Amérique profonde, de ces pasteurs, vous savez, à chaque coin de rue, qui promettent n'importe quoi, soit l'apocalypse, soit le bonheur pour pas cher.
Ça n'a pas beaucoup changé.
Ça n'a hélas pas beaucoup changé de ce point de vue-là, je le crains, effectivement. C'est pour ça que le film est d'une modernité absolue et qu'il faut revoir Le Malin de John Huston dans cette très très belle édition de Carlotta où les bonus sont également à la hauteur.
Un film complètement étonnant qui s'appelle Malm Krog de Cristi Puiu, c'est le cinéaste roumain, c'est un huis clos en costume de 3h20 où on discute philosophie.
C'est ça, c'est un moyen métrage pour Cristi Puiu, hein, 3h20. Donc effectivement, après la mort, souvenez-vous, de Dante Lazarescu et Sierra Nevada notamment, deux chefs-d'œuvre qui font que Cristi Puiu, c'est vraiment la crème de la crème de cette nouvelle vague roumaine qui est née après la chute de la dictature. Alors on a ces six personnages, pas du tout en quête d'idées, parce qu'ils en ont plein des idées sur la religion, sur l'histoire, sur le progrès, sur la morale. Ils n'en finissent pas de débattre. Tant et si bien qu'on est parfois, nous, en train de sortir un petit peu, mais fascinés par la cinématographie que met en place Cristi Puiu en permanence. Et c'est très, très étonnant d'écouter ces discussions passionnées dans une atmosphère un peu à la Tchekhov. Il y a, au milieu du film, à la mi-temps du film, un événement que je me refuse de vous raconter, mais qui est absolument étonnant. Et puis le film reprend son cours très curieusement. Non, franchement, le screen disait que c'est Visconti revisité par Buñuel. Je trouve que c'est pas mal. J'y ajouterais aussi Jean Renoir. Et c'est un film Malm Krog absolument étonnant. Il faut prendre le temps de le voir. C'est Shellac, l'éditeur Shellac, qui prend le risque, et très très bien, et on s'en réjouit, d'éditer ce DVD.
On a complètement le temps de développer ce super cadeau pour Arthur Teboul, qui était un très grand film qui s'appelle en anglais In Cold Blood.
De sang-froid, Richard Brooks. D'après Truman Capote, le livre évidemment de Truman Capote que tout le monde connaît, que j'espère tout le monde a lu. En tous les cas, il faut le lire. Et on pouvait presque redouter d'ailleurs le passage au cinéma du film de Capote. Et c'est peut-être Richard Brooks le candidat idéal parce que en 1967, il fait cette adaptation de sang-froid. Il est fidèle globalement à l'esprit de Capote, et en même temps, il le trahit suffisamment pour en faire un film absolument singulier, qui est un film de lui, avec notamment des choix radicaux, qui sont le noir et blanc, absolument assumé. Et quel noir et blanc ? Un noir et blanc retenu par Brooks contre l'avis de ses producteurs, de même que ses producteurs, par exemple, voulaient lui vendre comme héros Steve McQueen, un des deux héros qui est un des tueurs. Ouais. Et Brooks explique, ah oui, voilà, alors on vous raconte une histoire de tueur dingue, et vous avez un matin, ou un soir plutôt, Steve McQueen qui frappe à votre porte. C'est pas du tout un tueur, Steve McQueen. Et vous lui ouvrez, vous passez une bonne soirée avec lui. Évidemment, il choisit des gens beaucoup moins connus, et ça donne un film d'une profondeur, à la fois d'une noirceur, mais aussi d'une humanité sidérante. Le DVD, le Blu-ray, ce coffret, le combo, comme on dit, est à la hauteur, là aussi. Il y a un livre de 80 pages de Philippe Garnier qui est absolument éclairant. Une intro de Patrick Brion, le maître, évidemment. Et puis aussi, et ça va vous intéresser, vous, Arthur Teboul, vous, le musicien, un long développement de Stéphane Lerouge sur Quincy Jones, parce que c'est Quincy Jones qui signe la BO de De sang-froid, et Quincy Jones, c'est pas rien dans l'histoire musicale du cinéma américain. Bref, toutes les fées se sont penchées sur ce berceau très très noir, très sombre, mais je crois qu'il faut vraiment revoir avec un immense plaisir ce film. Le coffret, je le dis, sort la semaine prochaine. Alors ne vous précipitez pas maintenant chez votre vendeur préféré, c'est la semaine prochaine, mais De sang-froid, c'est chez Wildside, et ça vaut vraiment, vraiment le coup.
Ce qui est fou, c'est que ça a été tourné sur les lieux
du crime. Ah voilà, exactement. Vous avez tout à fait raison. Alors ça, c'est
dingue.
Il est allé tourner dans la maison du crime. Ça, franchement, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'exemples de ce type-là dans l'histoire mondiale du cinéma.
Une dernière question, Arthur Teboul, les cinémas, quand ils vont réouvrir, vous irez dans quelle salle tout de suite?
Là, comme ça, j'ai envie d'aller au Champollion.
Ah, très bien.
Quartier Latin.
Oui. Ouais. Bravo. Pour les films qui vont se précipiter, il y en aura trop à l'affiche, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, Arthur Teboul.
Merci, et merci pour ce sublime cadeau, magnifique.
Et merci pour cette liste étonnante. Eh bien voilà, oui. C'est à vous et vous avez le générique en main. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Georges Delerue a écrit les musiques du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Christophe Magère s'est occupé de la préparation. C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et David Leprince. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Arthur Teboul, j'y étais.